Chapitre 12. Mrs. Marlowe avait certainement parlé à son mari de ma crise de larmes, car un matin de bonne heure, peu après la fin de l'épidémie, il vint frapper à la porte de ma chambre. « Tu es réveillé, Daniel? J'ai quelques visites à faire du côté de la carrière, mais ensuite je vais revenir et t'emmener voir ta mère à l'hôpital, comme promis. » Je me levai d'un bond. Tout en m'habillant, je me demandais ce que cela lui ferait de voir à quel point j'avais changé. J'étais maintenant en pleine santé et solide sur mes jambes. Vêtu de la nouvelle veste qu'on m'avait confectionnée, j'avais l'air d'un jeune garçon équilibré et bien portant. Lorsque je confiai mes incertitudes à Mrs. Marlowe, elle me prit à part et me dit « Daniel, je crains que tu n'aies une grosse déception. Ta mère ne va pas bien du tout. Elle aura quitté l'hôpital depuis longtemps. Elle aurait quitté l'hôpital depuis longtemps si elle avait eu un tant soit peu retrouvé ses esprits. Mais ce n'est pas le cas. En plus, le docteur Marlowe dit que les infirmières n'arrivent pas à la convaincre de s'alimenter normalement. Elle mange très peu. Elle a terriblement mauvaise mine. Tu risques d'avoir un choc. » Je la dévisageai d'un air grave et acquiesçai pour lui signifier que je l'avais écoutée attentivement. Mais en vérité, mon cœur sautait de joie car je savais que ma mère irait mieux dès qu'elle me verrait. Elle me serrerait dans ses bras, retrouverait le moral et prendrait sur elle pour redevenir comme avant. Elle se remettrait sans tarder à son travail de dentelière et gagnerait de nouveau assez d'argent pour nous deux. Les Marlowe lui proposeraient peut-être de prendre une chambre pendant une semaine ou deux tandis que je coucherais dans le bureau du docteur. Et ensuite, lorsque nous serions sûrs, elle et moi, que tout allait bien, nous chercherions ensemble une nouvelle maison, aussi bien que Houghton Cottage, ou même mieux. « Daniel !» Le docteur m'attendait à la porte. Je me jetai au cou de Mrs. Marlowe pour lui dire au revoir et sortis en trombe. Le docteur et moi marchâmes jusqu'à l'autre extrémité de la ville, plus loin que je n'étais jamais allée avec sa femme ou ses filles, avant que l'épidémie nous oblige tous à rester cloîtrés. Nous cheminions en silence. Plusieurs fois, il me sembla que le docteur Marlowe voulait dire quelque chose, puis qu'il se ravisait. De mon côté, je m'efforçais de faire taire mon excitation grandissante. À la sortie de la ville, nous vîmes le panneau indiquant l'hôpital Langley, mais le docteur continua à marcher. Moi, je m'arrêtai. « Pourquoi continuez-vous ? » « Comment ça ? » Je montrai du doigt le panneau devant lequel nous venions de passer. « Vous avez d'autres visites à faire avant de m'emmener voir ma mère ?» Il comprit enfin. « Oh non, Daniel, ta mère n'est pas ici. Vous m'avez pourtant bien dit qu'elle était à l'hôpital. » « Oui, mais plus loin, un peu en dehors de la ville. » Nous marchâmes encore une bonne demi-heure. Soudain, nous quittâmes la route pour entrer dans ce qu'il appela une forêt de hêtres. Je ne sais pas si c'est parce que je me retrouvais pour la première fois de ma vie dans une vraie campagne, mais l'endroit me parut sinistre. À peine avions-nous fait quelques pas entre les arbres que j'eus l'impression de me trouver dans le monde étrange d'un conte de fées. Les oiseaux piaillaient et battaient des ailes. J'entendais le bruissement des feuilles et d'autres bruits furtifs dans les fourrés. J'ai l'impression d'entrer dans le genre d'histoire qu'on raconte dans les livres de bibliothèque. « Ah, ce serait trop beau !» s'écria le docteur. Regrettant aussitôt ses paroles, il s'arrêta net et me prit par les épaules. « Ma femme t'a-t-elle prévenu ?» Un frisson me parcourut. « Elle m'a dit que j'allais trouver ma mère changée. »« Elle a énormément changé, c'est vrai. Tu risques de ne pas la reconnaître. Elle est très malade. » J'ai explosé. « Peut-être irait-elle beaucoup mieux si vous aviez poussé la gentillesse jusqu'à me laisser lui rendre visite. » Il me prit par le bras, m'emmena au pied d'un arbre, me fit asseoir à côté de lui. « Tu te trompes, Daniel. Bien sûr, tu ne vois en ta mère que la personne très douce qui restait assise à ton chevet, t'apportait des repas et t'aidait à sortir dans le jardin puis à regagner ton lit. Mais ça, Daniel, c'était ta mère quand elle faisait tout pour que tu vives comme elle l'entendait, c'est-à-dire enfermée, isolée, coupée de tout, oui, de tout. » Je trouvais que c'était une manière bien sévère de décrire une femme qui aimait son fils. Mais sachant désormais que ma maladie était une pure invention, je ne pouvais pas discuter. Je restai assis là, silencieux. « Tout d'abord, reprit-il, nous l'avons emmenée à l'hôpital, devant lequel nous sommes passés tout à l'heure. Je pensais, et les infirmières aussi, qu'une fois qu'on lui aurait expliqué que tu étais sain et sauf, elle se calmerait. Elle m'a parfaitement entendu. Je lui ai dit qu'elle te reverrait dès qu'elle aurait admis que tu n'étais pas malade, et que ta vie était trop précieuse pour que tu passes en une minute de plus coupée du monde. » Il laissa échapper un soupir. Et là, elle s'est déchaînée. Je ne comprenais pas très bien. Déchaînée comment ? Elle hurlait, bavait, déchirait ses vêtements. Elle tournait comme un derviche. Elle s'est même jetée sur nous pour nous griffer le visage et nous a maudits. « Maudit ! Ma mère vous a maudit ?»« Il faut me croire, Daniel. Nous n'avons pas affaire à la mère que tu connaissais. Elle s'est comportée comme quelqu'un qui a perdu la raison. Il a même fallu poser des verrous à sa porte. Et aucune infirmière n'osait entrer dans sa chambre sans être accompagnée de deux surveillants costauds. On a essayé pendant des semaines. Elle envoyait voler à travers la chambre les plateaux de nourriture qu'on y laissait. Elle cassait la vaisselle. Les autres patients ne pouvaient pas fermer l'œil de la nuit à cause de ses cris. Ma mère criait. Les infirmières croyaient entendre des loups hurler à la lune. Je me bouchai les oreilles. « Arrêtez ! Je ne veux pas entendre ça !» Il retira mes mains de force et me dit presque fâché. « Tu comprends maintenant pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour t'emmener la voir ? Je dois être le seul médecin à des kilomètres à la ronde qui ait béni cette épidémie de fièvre, parce qu'elle me donnait une excuse, un minuscule prétexte supplémentaire pour empêcher un enfant de rendre visite à sa mère. » Voyant mes larmes ruisseler sur mes genoux, il passa son bras autour de mes épaules. « Et à présent que je t'ai dit la vérité, Daniel, peut-être devrions-nous rester tranquillement assis là, le temps que tu décides si tu ne préfères pas suivre mon conseil, qui, je t'assure, vient du fond du cœur. Rentrons. Voir ta mère ne te fera aucun bien. » Il s'interrompit, puis fit un visible effort pour aller jusqu'au bout. « Et je suis persuadé à présent qu'il en est de même pour elle. Te voir ne peut lui faire aucun bien. »